Vous écoutez, on lit pour vous.
L'écart de richesse se creuse entre les Québécois et les Ontariens, un texte d'Éric Desrosiers, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir. L'écart de richesse accumulée se creuse entre les Québécois et les Ontariens. C'est parce que la valeur de leur maison n'augmente pas à la même vitesse, conclut une étude. Le patrimoine des ménages québécois a pourtant augmenté en 20 ans, constate une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, CIRANO, dévoilée ce jeudi. Sa valeur moyenne, en dollars de 2016, a même presque doublé, passant de 245 000 $ en 1999 à 462 000 $ en 2019. Seulement, la valeur des actifs des ménages ontariens et de la moyenne canadienne a plus augmenté encore, à raison d'une hausse de 88 % au Québec, de 113 % en Ontario et de 111 % en moyenne au Canada. Ainsi, alors que la richesse moyenne des Québécois était 30 % plus faible que celle des ménages ontariens en 1999, cet écart dépassait 38 % en 2019. Leur retard sur la moyenne canadienne est passé, au même moment, de 19 % à plus de 27 %. On se souvient que le gouvernement québécois de François Legault s'est fixé comme objectif de rattraper le retard de richesse du Québec sur son voisin ontarien. Mais dans ce dernier cas, il est plutôt question de la richesse produite par habitant, alors que dans l'étude du CIRANO, on fait le total de la valeur des avoirs immobiliers, financiers et autres détenus par les ménages. Toutes sortes de facteurs peuvent avoir une influence sur le niveau de richesse des familles, expliquent ses auteurs. Raquel Fonseca, Marcus Poschke et Simon Laure. Le fait d'avoir eu une éducation plus longue, par exemple, d'être plus âgé ou d'être en couple sans enfant, est généralement associé à de meilleurs revenus et à la constitution d'un plus gros patrimoine. Le vieillissement de la population laisse entrevoir aussi d'importants transferts de richesses intergénérationnelles sous forme d'héritage et de transferts entre vivants. Mais tous ces facteurs ne permettent pas vraiment d'expliquer l'écart grandissant entre le Québec et l'Ontario, note l'étude. C'est lorsque l'on regarde les différents éléments qui entrent dans la composition des avoirs des ménages qu'on trouve la solution. La faute du marché immobilier. En effet, on y constate non seulement que les ménages québécois disposaient d'un patrimoine immobilier net, actifs immobiliers, moins les dettes hypothécaires, presque deux fois moindre que celui des Ontariens en 1999, mais aussi que la valeur moyenne de ces maisons et appartements avait beaucoup plus augmenté en Ontario, 177 % qu'au Québec, 92 % au bout de 20 ans. Ainsi, en 1999, l'immobilier représentait plus de la moitié de l'écart de richesse moyenne des ménages entre le Québec et l'Ontario, dit l'étude. Cette proportion a augmenté à presque 80 % en 2019. À l'inverse, la valeur financière des pensions et des fonds de retraite était au départ relativement moins éloignée entre les ménages québécois et ontariens au début de la période et s'est rapprochée au fil des ans. Cette dernière comparaison est toutefois une moyenne et cache le fait que pour la moitié des Québécois les moins riches, les fonds de pension sont nettement plus petits que ceux des ontariens du même groupe. Plus généralement, toutes ces moyennes cachent aussi que ces avoirs sont toujours très inégalement répartis, note le CIRANO. Au Québec, comme ailleurs au Canada, Les 20 % les plus riches détiennent presque 70 % de l'ensemble des avoirs, contre moins de 3 % de la richesse pour les 40 % des ménages les plus pauvres. Moins de propriétaires aussi. Basé sur les données de l'enquête sur la sécurité financière conduite ponctuellement par Statistique Canada, l'étude s'arrête à 2019. L'une des auteurs, Raquel Fonseca, ne croit pas que les tendances qui y sont rapportées aient beaucoup changé depuis. On y reconnaît notamment la forte hausse des prix immobiliers un peu partout au Canada, mais particulièrement à Vancouver et Toronto. On y constate l'effet qu'a eu cette augmentation du prix des maisons sur la valeur des avoirs de ceux qui ont pu profiter de la vague. Or, en plus d'avoir profité de hausses de prix moins marquées, les Québécois continuent de tirer de l'arrière en ce qui a trait à la propriété de leur logement. En 2019, 77,5 % des Québécois âgés de 20 à 29 ans se disaient non propriétaires contre un peu plus de 72 % en Ontario. Un écart entre les deux provinces était aussi présent chez les personnes de 40 à 49 ans, à raison d'une proportion de non-propriétaires de 37,5% au Québec et de 30,4% en Ontario. Les questions de propriété du logement sont donc au cœur de l'évolution du patrimoine des ménages au Canada et de l'écart grandissant entre le Québec et le reste du Canada, a conclu cette semaine Raquel Fonseca en entrevue au Devoir. Bon, si vous êtes propriétaire de votre logement au Québec et que vous n'avez pas à déménager en Ontario, vous ne vous rendez peut-être pas tellement compte de cet écart. C'était « L'écart de richesse se creuse entre les Québécois et les Ontariens », un texte d'Éric Desrosiers, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir.
Liquidation Marie, l'épicerie à bas prix contre le gaspillage alimentaire, un texte d'Annabelle Caillou, paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir. Payeriez-vous 88 sous pour un casseau de fraises un peu trop mûr ou 1,88 pour du boursin dont la date de péremption est dans 7 jours? C'est le pari de la chaîne d'épicerie Liquidation Marie qui multiplie les succursales dans la grande région de Montréal. En misant sur les produits déclassés, les invendus et les aliments bientôt, voire déjà périmés, l'entreprise veut lutter contre le gaspillage et aider les consommateurs à joindre les deux bouts. L'épicerie est rendue tellement chère aujourd'hui. Les gens m'écrivent de partout au Québec pour qu'on ouvre une succursale dans leur coin, confie Marie-Ève Breton, propriétaire des épiceries Liquidation Marie. La popularité de son enseigne, lancée en 2012 à Saint-Zotique, a explosé dans la dernière année. Des 5 succursales existantes, 2 ont ouvert leurs portes dans les derniers mois, à Saint-Jérôme et à Montréal. 2 autres verront le jour à Laval et à Repentigny d'ici l'automne 2025. Il faut dire que le concept a de quoi séduire puisqu'il propose aux clients de réduire de 50 % et parfois même plus le prix de leur panier d'épicerie. Encore faut-il être prêt à garnir son réfrigérateur et son garde-manger de fruits et légumes moches, de fromage et de yogourt dont la date de péremption arrive à grands pas, ou encore de produits secs déjà périmés. On se spécialise vraiment dans la catégorie des numéros 2, ça veut dire tout ce que les grandes chaînes refusent et qui finit souvent par être jeté. On négocie avec les fournisseurs pour récupérer les surplus d'inventaire, les erreurs d'étiquetage ou de format et les produits passés date, mais encore parfaitement bons et comestibles, explique Marie-Ève Breton, ravie de pouvoir contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. Lors du passage du Devoir dans la succursale montréalaise, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Les tablettes étaient remplies de céréales, de conserves de légumes, de pâtes à tartiner, d'épices et de confiseries en tout genre. Les congélateurs étaient, eux, garnis de poissons, de crevettes, de poitrines de poulet, de côtes levées de porc et de bien d'autres morceaux de viande. Le tout était vendu pour une fraction du prix affiché dans les grandes chaînes. L'offre aux rayons frais était néanmoins réduite lors de notre visite. Aucun légume, 3 ou 4 sortes de fromages à moins de 4 $, des cassots de fraises et de framboises à 88 sous et une sorte de smoothie Activia à moins de 1 $. Je dépends de la disponibilité des fournisseurs. J'achète les spéciaux du moment sur le marché, explique la propriétaire. Elle cherche justement à établir de nouveaux partenariats pour permettre aux familles de faire une épicerie de base dans son enseigne. Je viens de signer un contrat avec Lactalis pour avoir davantage de produits laitiers. Je travaille aussi sur un projet pour avoir des œufs, ça manque en ce moment. Il manquerait peut-être aussi du pain. Forte demande. Reste que le concept a déjà convaincu nombre de consommateurs. Marie-Ève Breton estime qu'en moyenne 20 000 clients fréquentent chaque semaine ses succursales. Elle a d'ailleurs lancé un groupe Facebook regroupant aujourd'hui plus de 95 000 membres, dans lequel elle annonce certaines aubaines et permet aux clients d'échanger entre eux au sujet de leurs trouvailles. Elle profite également de cette tribune pour faire un peu d'éducation et sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire, tout en leur montrant comment adopter d'autres habitudes de consommation. Ça fait des années que j'explique à la clientèle qu'une date meilleure avant ne veut pas dire qu'après ce n'est plus bon, lance-t-elle, rappelant respecter toutes les normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Il y a encore du travail à faire, mais c'est motivant de voir que ça évolue petit à petit dans l'esprit des gens. Je le vois rien que par la fréquentation de nos succursales. Madame Breton explique aussi la popularité de son enseigne par l'augmentation du coût de la vie et, surtout, du prix du panier d'épicerie dans les dernières années. Il y a un besoin criant. Les gens cherchent par tous les moyens à faire des économies pour s'en sortir au jour le jour. Marie-Ève Breton dit recevoir des centaines de messages de consommateurs de toute la province qui rêvent de voir un Liquidation Marie ouvrir ses portes dans leur région. Son enseigne pourrait-elle dépasser les frontières de la grande région de Montréal? Mettons que 2025 est déjà bien occupé, mais je ne suis pas fermé à l'idée de continuer l'expansion en 2026, répond enjoué l'entrepreneur. C'était Liquidation Marie, l'épicerie à bas prix contre le gaspillage alimentaire, un texte d'Annabelle Caillou paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir.
Pour en finir avec les autos, ou pas, un texte de Stéphane Laporte paru le 15 juin 2025 dans La Presse. Durant des années et des années, l'humain faisait tout à pied. Puis, 4000 ans avant notre ère, l'un d'eux ou l'une d'elles, voulant aller plus vite, voulant aller plus loin et, surtout, voulant arrêter de tout traîner sur son pauvre dos, a inventé la roue. On lui doit beaucoup. Du coup, apparurent chariots et charrettes pour aider l'agriculture. Le tour du potier permit la fabrication de la céramique. Avec des roues dentées, moulins et horloges furent créés. Le principe de la poulie a rendu possible l'érection des pyramides, des bungalows et du stade olympique. L'invention de la roue fit vraiment boule de neige. D'elle déboulèrent la bicyclette, le tracteur, le train, la tondeuse, les patins à roulettes et la roue de fortune de l'Auto-Québec. Mais l'aboutissement ultime de cette pierre qui roule est l'automobile, le char. Au 18e siècle, la première voiture faisait un peu pouette-pouette. Elle avançait tellement lentement que les piétons la dépassaient, comme de nos jours à Montréal. Alors, les hommes se sont mis à bisouner sur leur engin jour et nuit. Tant et si bien qu'au milieu du 20e siècle, l'automobile est devenue le symbole de la réussite, la représentation du bonheur. Avoir un char, c'était être heureux comme John Travolta dansant dans son garage sur Greased Lightning. La vie et la ville tournaient autour de la cylindrée. Durant des années et des années, l'humain faisait tout en char. Il allait travailler en char, il allait en vacances en char, il allait manger en restant dans le char, il allait au cinéma en restant dans le char, il repeuplait la nation en restant dans le char. Il faisait même des tours de machine pour aller nulle part. Aucun objet dans l'histoire du monde, et Dieu sait qu'il y en a eu des objets dans l'histoire du monde, aucun objet, dis-je, ne fut autant aimé, adoré, vénéré, lavé, frotté et ciré. Pour preuve, les tounes de char. C'est pratique aussi un réfrigérateur, un four, un lave-vaisselle, un micro-ondes, une fournaise, un air climatisé. Pourtant, en avez-vous beaucoup entendu? Des chansons à propos des réfrigérateurs, des fours, des lave-vaisselles, des airs climatisés? Je sais que mon ami Pierre Huet va dire que dans mes blouses, passe plus dans la porte, le frigidaire a fait ben du bruit. Des célébrations de la voiture, il y en a des milliers. La plupart sont entraînantes. Drive My Car, des Beatles. Life is a Highway, de Tom Cochrane. I Drove All Night, de Roy Orbison, reprise par Céline. Les ailes d'un ange, de Robert Charlebois. Pink Cadillac, de Bruce Springsteen. Get Out of My Dreams, Get Into My Car, de Billy Ocean. Les chemins d'été, dans ma Camaro, de Steve Fizette. Little Red Corvette, de Prince. Mercedes-Benz, de Janis Joplin. Fuel, de Metallica. Ou Si j'avais un char, de Stephen Faulkner. Il y en a même des poétiques. Fast Car, de Tracy Chapman. Rouler la nuit, de Beau Dommage. Et J'ai couché dans mon char, de Richard Desjardins. La liste est longue comme l'avant un jour de pluie. Non seulement les êtres humains aiment les chansons de char, mais ils aiment écouter les chansons de char dans leur char. Il en existe assez pour en fredonner, en roulant, sans s'arrêter. D'Oiwituk au Nunavut jusqu'à Puerto Williams, en terre de feu. 13 100 kilomètres d'inspiration motorisée. Tout ça pour dire que durant des décennies, de Rio Pelle à Elvis Graton, aimer son char était de bon ton. Puis, le 21e siècle arriva et tout changea. L'automobile est devenue le corbillard de la planète, la responsable du réchauffement planétaire. D'objet du désir à objet de la désolation. Pour justifier la crevaison de l'adoration, des études scientifiques qu'on ne peut contredire. La maudite machine pollue. Le problème, c'est qu'on a beau dire, ça reste tellement pratique pour se déplacer. Pratique et fantaisiste. Pour assumer sa liberté. Bien sûr, il y a le transport en commun, quand il n'est pas en grève. Bien sûr, il y a le REM, quand il fonctionne. Bien sûr, il y a le vélo. Bien sûr, il y a les souliers de course, gazelle ou autre. Mais un trajet en voiture, seul ou avec ceux que vous aimez, partir à l'heure qui vous convient, prendre la route que vous voulez, vous arrêter au gré du chemin, changer d'idée et aboutir ailleurs parce qu'il y fait plus beau, ça reste quand même une prérogative de l'auto. On espérait que la voiture électrique referait l'image de la caisse à quatre roues. Qu'en éliminant la boucane, on purifie sa réputation. Que la belle de demain redevienne aussi désirée que la belle d'autrefois. Malheureusement, en ce moment, beaucoup se débranchent de la voiture électrique. Et le comportement de son plus célèbre constructeur n'arrange rien à l'affaire. Peut-on encore aimer son char en 2025? Ou doit-on l'envisager comme un mal nécessaire dans notre rythme de vie effréné, en attendant de s'en débarrasser? Devant le Grand Prix de Montréal, les partisans des deux idéologies se font face. Ceux pour qui la bagnole demeure le véhicule de l'ascension sociale, du bling-bling, de la richesse chromée, et ceux pour qui la voiture est l'ennemi public numéro F1. Les deux clans se rendent dedans. Lequel est dans le tort? Lequel a pris le sens unique du mauvais bord? Peut-on être sur la voie d'accotement? Ni complètement contre, ni tout à fait pour? Peut-on juste aimer les chars parce que ça reste une sacrée invention? Que grâce à elle, on a parcouru des endroits qu'on n'aurait jamais connus sans elle? Aimer les autos comme mon petit-neveu Édouard, âgé de 5 ans, aime les autos. Parce que ça roule, tout simplement. Bien sûr, c'est un danger. Danger routier, dépendant de ce qu'on en fait. Il y a les voitures qui écrasent les gens. Et il y a les ambulances qui sauvent la vie des gens écrasés. Danger écologique. On ne s'en sort pas. Jusqu'au jour où l'on trouvera la voiture parfaitement verte. Ce sera peut-être le char des pierres à feu. On freinera comme Fred Caillou, avec nos pieds. On ne peut plus aimer son char à 100 000 à l'heure, comme dans le temps. Mais on peut encore l'apprécier à 40 km/h, parce qu'il nous permet de nous retrouver. Mon père a passé ma jeunesse à aller me reconduire quelque part, à aller me rechercher au même endroit ou ailleurs. J'ai passé plus de temps assis à sa droite dans son Impala ou sa Bel Air que n'importe où ailleurs avec lui. Il ne me parlait pas beaucoup, mais je savais que le temps qu'il consacrait à mes allées et venues, ça voulait dire « Je t'aide comme je peux à ce que tu puisses aller où tu veux. » C'est pas mal ça, le rôle d'un père, montrer le chemin. On applaudit tous les pères qui accompagnent leurs enfants dans leurs bras, à pied, à vélo, en bus, en métro, en auto, en exemple et en pensée. C'était pour en finir avec les autos ou pas. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 15 juin 2025 dans La Presse.
Près de 70 % des Canadiens appuient la vaccination obligatoire des enfants. Un texte de Hannah Alberga de La Presse canadienne, paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir. Un nouveau sondage révèle que près de 70 % des Canadiens sont favorables à la vaccination obligatoire des enfants. Ce sondage de l'Institut Angus Reid intervient alors que plusieurs provinces sont aux prises avec une épidémie de rougeole qui touche principalement les nourrissons, les enfants et les adolescents qui ne sont pas vaccinés. Lors du sondage, réalisé auprès de près de 1 700 Canadiens entre le 20 et le 23 mai, 69 % des répondants ont estimé que la preuve de vaccination devrait être exigée pour que les enfants puissent fréquenter les garderies et les écoles. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 55 % de répondants qui avaient exprimé la même opinion en 2024, avant le début de l'épidémie. Le taux national de ce nouveau sondage est légèrement inférieur en Alberta, où il s'élève à 60 %. Cependant, il a augmenté par rapport à 2024 dans cette province, lorsqu'il s'était élevé à 48 % Santé publique Ontario indique avoir recensé 93 nouveaux cas de rougeole, ce qui porte le nombre total d'infections dans la province à 1888 depuis octobre 2024. Ce chiffre est à comparer aux 173 nouveaux cas signalés le 22 mai et aux 182 le 15 mai en 2025. Selon les autorités ontariennes, la rougeole a entraîné 141 hospitalisations jusqu'à présent, dont 101 nourrissons, enfants et adolescents non vaccinés et 10 personnes ayant nécessité des soins intensifs. L'Alberta a pour sa part répertorié 628 cas. Au Québec, 40 cas de rougeole ont été confirmés au cours de l'éclosion qui s'est amorcée en décembre dernier et qui a pris fin en avril. Une autre éclosion avait eu lieu entre février et juin 2024, tandis que d'autres cas sporadiques sont survenus en 2024 et 2025. La moitié des répondants de l'Ontario et de l'Alberta ont déclaré qu'ils estimaient qu'il fallait en faire davantage pour contrôler l'épidémie à tous les niveaux de la gestion de la santé, du premier ministre au médecin hygiéniste en chef. La preuve de vaccination est obligatoire pour les enfants scolarisés en Ontario et au Nouveau-Brunswick, sauf en cas d'exemption valide, mais ce n'est pas le cas partout au pays. Le pourcentage de répondants favorables à la preuve de vaccination était légèrement inférieur en Alberta, 60 %, mais supérieur aux 48 % d'Albertains qui soutenaient une vaccination obligatoire en 2024. Un article publié en octobre 2024 dans la Revue canadienne de santé publique a révélé qu'environ 76 % des enfants de 7 ans avaient été vaccinés contre la rougeole en 2023, comparativement à un peu plus de 86 % en 2019. Le sondage a également révélé que 37 % des répondants de l'Alberta ont déclaré ne pas avoir confiance dans la réponse de leur gouvernement provincial à la rougeole. Ce taux était beaucoup plus faible au Québec, à 18 %, tandis qu'il s'élevait à 30 % en Saskatchewan et à 27 % en Ontario. L'organisme professionnel du secteur des sondages, le Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien, indique que les sondages en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d'erreur, car ils ne sont pas effectués auprès d'un échantillon aléatoire de la population. C'était près de 70 % des Canadiens appuient la vaccination obligatoire des enfants, un texte de Hannah Alberga de la presse canadienne paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir.